Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous ce matin sur Poitiers. J'aurais voulu venir trois jours par rapport au programme qui était largement stimulant pour les gens s'intéressant à la notion d'accompagnement. Malheureusement, j'ai été pris toute la semaine à grande vitesse et j'ai pu venir qu'hier soir. Donc on va essayer de rentrer de vraiment assez rapidement dans le propos. Mon objectif, en fait, c'est de vous présenter en quelques minutes ce travail, qui est un travail de recherche systématique d'observation des enseignants débutants, pour ensuite vous demander réellement comment on pourrait réfléchir ensemble pour pouvoir s'en servir. Et j'ai une commande c'est pas une commande démagogique, j'aimerais avoir votre premier avis sur les usages potentiels, sur les trajectoires possibles, les populations préférentielles par rapport à ce type d'outils, et puis après les développements envisageables pour vous, les manques, les lacunes, les opportunités par rapport à ce type de conception, puisque nous sommes dans une nouvelle donne par rapport à l'enseignement, par rapport à la formation. Mes propos ce matin ne seront pas du tout nostalgiques, pessimistes, mais je vais essayer au contraire de montrer qu'il y a c'est à nous de construire de nouvelles pistes, de frayer de nouveaux chemins par rapport à la formation. Je n'aurai pas non plus de positionnement totalement identitaire et territorial par rapport aux IUFM. Je suis d'un IUFM, non plus par rapport à l'INRP. Je suis à l'INRP à mi-temps. Je crois qu'au-delà de ces difficultés existentielles et territoriales, au-delà de ces symboles, c'est vraiment pour moi l'occasion de réfléchir à nouveau frais sur la formation des enseignants et de pouvoir peut-être par ces médias, ce e-learning, cette vidéo-formation, mais d'autres avec d'autres outils, de trouver de nouvelles pistes et de réfléchir en commun par rapport à ça. Alors, premier volet, c'est un volet qui va être un peu descriptif pour, je ne sais pas si combien d'entre vous ont déjà vu cette plateforme. Est-ce que je peux faire un sondage à main levée ? Qui est-ce qui a pu aller jeter un œil sur la plateforme pour que je sache à peu près ? Donc ça fait un petit tiers, apparemment, si j'ai bien compté. Je n'ai pas trop de scrupules alors à vous présenter un peu les choses. Vous avez eu, je crois, un signé avec les tests, enfin en tout cas les mots-clés pour pouvoir entrer dans la base. Vous avez un code provisoire, c'est ça ?
Oui, pour la durée du stage là, que j'ai noté sur la partie droite du tableau.
Donc vous avez formation@inrp.fr.
Ça c'est le compte. Ça.
C'est le compte. Et puis ensuite
EZEN 2010.
D'accord. Et ensuite c'est assez facile. Hein. Il y a une interface qui est assez conviviale maintenant pour pouvoir avoir un numéro personnel enregistré sur votre navigateur de façon préférentielle pour éviter systématiquement d'avoir à retaper les codes. Alors, j'espère que mon intervention ne va pas être trop décousue, parce que je voudrais à la fois vous montrer un parcours de chercheur, une conception et plein d'interrogations à la suite de ce travail-là. Alors, les objectifs de ce travail, c'était vraiment de partir des débutants. Et on va voir qu'ici, il y a une sorte d'inversion par rapport aux problématiques assez récurrentes en France. Je veux pas non plus être trop tranchant dans mes propos, mais systématiquement le conseil pédagogique, et pour l'avoir vécu dans les UFM pendant quelques années, c'était quand même une caractérisation en creux des débutants à partir de référentiels, de normes plutôt chevronnées. J'entendais Anne Jorot également insister hier sur la nécessité de partir, d'être en prise directe avec les débutants. C'est vrai que pour l'avoir vécu, pour avoir encadrer des thèses sur le conseil pédagogique, sur le suivi de parcours de professeurs stagiaires, on s'apercevait que très rapidement, le conseil pédagogique a chopé sur des problèmes identitaires, sur des problèmes, sur des quiproquos, sur des difficultés à comprendre réellement le sens de l'activité débutante. Donc, dans l'approche qui est la mienne, d'un point de vue épistémologique, dans une perspective assez anthropologique, c'est quand même de partir des débutants, de comprendre leur monde, leurs phénomènes, leurs émotions, la construction même des raisonnements qui sont les leurs, pour, même si je suis formateur, même si j'ai d'autres référentiels, prendre le temps de me mettre dans leur peau, non pas dans une perspective seulement empathique, avec compassion, mais pour pouvoir comprendre ces phénomènes et la construction de ces phénomènes, la dynamique même de développement professionnel. Si on ne fait pas ce pas de côté, si on ne laisse pas quelque temps nos référentiels, nos repères, on prescrit, on arrive à ces conseils en cascade qui n'ont aucun effet sur les ailes à peine mouillées des enseignants débutants, et on se retrouve devant des quiproquos et souvent des ruptures de contrat. Et puis un conseil, ça prend du temps, un conseil doit s'insérer dans une dynamique de développement et c'est pas du tout évident. Donc c'était vraiment à partir de là qu'on a voulu faire, depuis quelques années, cette recension des situations problématiques pour partir d'eux et construire donc éventuellement des ressources à partir d'eux. Mais c'est pas pour autant, et j'insiste bien, par rapport à des normes académiques, qu'on va en rester à leur niveau. Le but, c'est bien d'arriver à créer cette dynamique de développement, de repérer ces zones potentielles de développement, pour que de proche à proche, on puisse les aider à sortir des situations difficiles, à sortir de l'ornière, qu'on leur propose un certain nombre de pistes. Donc c'est une recherche qui veut être à la fois, non pas contemplative, mais au contraire, partir du point de vue des débutants, mais qui est dynamique, avec cette volonté dynamique de repérer des étapes, de repérer du développement, d'être parfois optimiste, alors même que certains se sentent en difficulté et peut-être englués dans des situations de façon relativement longue, montrer de la dynamique inter-individuelle, de la dynamique intra-individuelle, pour, non pas formater, mais donner des pistes et des jalons par rapport à leur formation. Donc c'est d'écrire et interroger la pertinence des différentes modalités d'enseignement. Là aussi, il me semble qu'il y a une prise de position par rapport qui est un peu nouvelle. On voit souvent des enseignants-chercheurs qui, en sciences de l'éducation ou ailleurs, ne veulent pas s'engager par rapport à des bonnes pratiques, qui préfèrent pointer, repérer, décrire de façon un peu contemplative ou un peu plus statique, sans forcément se positionner par rapport à une bonne ou à une mauvaise pratique. Là, non plus, hein, je ne veux pas montrer la norme et ériger des normes, mais en partant sur une recension longue, quantitative, d'enseignants débutants travaillant en milieu difficile, en éducation prioritaire, on repère des régularités. On peut repérer des phénomènes vécus quasiment de la même façon pour un prof de PS, un prof de maths ou un prof d'histoire-géographie. Ces entrées en classe, bon, premier thème en tout cas de cette vidéothèque. À partir de là, ce qui nous semble important, c'est de repérer comment des jeunes enseignants s'en sont sortis. Quelles sont leurs stratégies? Quels sont les moyens qu'ils ont utilisés, souvent seuls, je dirais souvent par braconnage, par rapport aux normes, comment ils ont réussi à reconstruire, Frédéric Sauja dirait, ce compromis entre des normes personnelles de viabilité pour tenir dans l'établissement et des normes académiques desquelles ils vont peut-être s'écarter à un moment donné pour y revenir après. Donc là, il y a une sorte de tension permanente, de compromis provisoire entre des normes personnelles et des normes académiques. Bien sûr qu'en regardant les normes institutionnelles, on peut vraiment se courroucer de voir les écarts. Mais je crois que j'essaye d'avoir un autre point de vue, c'est d'arriver à repérer les deux en même temps, ces doubles normes et ces compromis, ces situations instables où un jeune enseignant est obligé de s'écarter par rapport à certaines normes prescrites par l'institution pour tenir dans sa classe, pour reconstruire une légitimité, une identité. Et peut-être, lorsqu'il aura enfin cette stabilité en termes d'identité et de stabilité d'activité, par exemple sur des débuts de cours, il va pouvoir réinterroger ce qu'il fait. Il devrait pouvoir réinterroger ce qu'il fait, ce que ne font pas tous les enseignants débutants. Certains se recroquevillent dans des situations assez sclérosées d'activité. Et c'est là qu'une formation, qu'un accompagnement devrait les pousser à sortir de ces coquilles ou de ces situation un peu sclérosante. On peut donc, dans ce travail-là, essayer de repérer des pratiques qui marchent, des pratiques qui favorisent ces équilibres provisoires. Alors, bien sûr, hein, vous voyez les quelques exemples que j'ai déjà donnés. Si on voit des jeunes débutants en grande difficulté avec ces moments d'attente complètement stériles, et vous les connaissez bien, j'ai des vidéos que je n'ai pas du tout montrées sur la plateforme vidéo, mais avec des attentes qui durent 50 minutes. J'ai des cours où il n'y a pas d'interaction pédagogique, où il y a une minute d'interaction pédagogique sur 55 minutes. Je ne les ai pas montrés. Mais on voit bien, en tout cas, la stérilité de ce type d'attente. Et on voit après toute la doxa qui existe chez les débutants par rapport à ce type d'attente dans une perspective assez académique avec des référentiels de cours universitaires, etc., où on attend le silence pour démarrer le cours. On voit bien que ce sont des pratiques qui ne marchent pas. Et des fois, ça m'est arrivé derrière ma caméra de repérer un début de cours et dire voilà, ça c'est encore une fois l'attente interminable qui va se mettre en place, qui va s'instaurer, qui va, comme cela, durer éternellement, c'est-à-dire plus d'une vingtaine de minutes. C'est insupportable pour les élèves, pour l'enseignante, pour l'enseignant et pour moi-même. Donc là, on voit ces pratiques qui ne marchent pas et on voit un certain nombre de pistes que les jeunes construisent dans l'action de façon opportune, stratégique, pour pouvoir s'en sortir. Et il me semble que là, même si ce ne sont pas les meilleures pistes, même si ces pistes s'écartent des schémas conventionnels, elles sont peut-être à prendre au sérieux. Ce sont des pistes frayées par des débutants, offertes aux débutants, pour pouvoir sortir de ces chausse-trappes. Et c'est là qu'il me semble que l'analyse de l'activité réelle, sans, pour ma part, de modèle académique, permet quand même de voir le réel de l'activité et ses transformations. À partir de là, il faut réinterroger ça. Si, à un moment donné, un enseignant débutant se sert de l'écrit pour mettre les élèves au travail rapidement, on s'aperçoit que cet écrit peut être totalement instrumentalisé et complètement aberrant d'un point de vue des normes didactiques, mais que si l'enseignant débutant, progressivement, arrive à réinterroger ce type d'usage pour en réinterroger les acquis, les apprentissages, et remettre cela en lien avec la leçon précédente et la leçon suivante, on peut imaginer qu'il y a un peu de fécondité, ou en tout cas de pertinence d'un point de vue didactique et académique. En même temps, tous les chevronnés reconnaissent faire ce type de travail, parfois, ponctuellement, à certaines occasions, dans telle ou telle mesure. Donc ici, c'est à la fois repérer du genre professionnel, des usages professionnels qui sont peut-être pas suffisamment partagés et que les débutants réinventent en permanence seuls avec énormément de scrupules, de culpabilité par rapport à ces écarts aux normes. Donc ce travail, je suis beaucoup trop long parce que c'est simplement le premier point et j'en ai à peu près 35, c'est de montrer cette dynamique, cette complexité. C'est aussi de penser que ce travail il évolue en permanence, que les normes bougent. C'est pas à vous que j'apprendrai ça, pour les gens qui sont régulièrement en classe, les inspecteurs, les formateurs, etc. Ce travail de recherche, pour moi, il est en prise directe avec cette transformation de la professionnalité enseignante. Si je m'écarte plus d'un mois des établissements dans lesquels je travaille avec ces jeunes enseignants, j'ai l'impression d'avoir perdu mes repères et de voir des choses nouvelles, de comprendre des problèmes nouveaux. Donc pour moi, l'obligation de mon travail, c'est d'être chaque mois dans les classes, de continuer ce travail avec ces enseignants débutants, de les suivre sur plusieurs années, et de me laisser surprendre par des choses qui ne sont pas du tout évidentes et qui évoluent en permanence. L'objectif, les deux derniers objectifs, in fine, c'est pour moi de proposer un outil de vidéo formation. Ça faisait à peu près 4-5 ans que je me promenais dans les communautés scientifiques de formateurs et devant des enseignants débutants, et que régulièrement, il y avait une sorte de, non pas plébiscite, mais en tout cas d'unanimité par rapport à l'intérêt potentiel de ce travail-là. En étant, non pas par rapport au travail que je fais, mais par rapport à ce type de matériaux, en sachant qu'il fallait franchir le pas de rendre homogène, de rendre non pas universel, mais à portée nationale, un travail qui était un corpus artisanal d'un enseignant-chercheur qui balbutiait, qui cherchait, qui repérait des catégories, mais avec beaucoup, beaucoup de respect des humains derrière ces vidéos et des problèmes de droit à l'image, des problèmes déontologiques, parce que des vidéos de jeunes profs chahutés, j'en ai plein, mais quel usage en faire en formation? Comment faire pour éviter le misérabilisme et le spectaculaire, pour arriver à repérer des genres, des phénomènes partagés, sans mettre en avant des difficultés personnelles, sans stigmatiser des personnes, sans psychologiser des difficultés. Donc tout ce travail-là a été compliqué. Maintenant, on a assumé le fait de mettre un outil en vidéo formation qu'on peut utiliser à deux niveaux. Dans un premier temps, un niveau personnel, et vous verrez tout à l'heure des tout petits bouts d'extraits de jeunes débutants qui sont en train de s'emparer de la plateforme et qui repèrent des choses et qui construisent du raisonnement. Je suis absolument convaincu que ce n'est pas suffisant. C'est une aide potentielle, ponctuelle. Certains jeunes nous ont dit ah, ça fait peur, parce qu'on s'aperçoit que c'est un métier qui s'apprend. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Il faut du temps, il faut de la maturité, il faudrait prendre... Le premier thème fait 90 vidéos, 4-5 heures de vidéos. On ne peut pas les ingurgiter comme ça. Il faut des mois de réflexion, peut-être qu'il faut y revenir régulièrement. On ne sait pas du tout les usages qu'on va en faire les jeunes enseignants. Pour l'instant, au niveau des chiffres, on a, sur le mois de septembre, 25 000 entrées sur le site, 25 000 visites, donc c'est pratiquement, ça correspond au même chiffre que le CNDP par rapport à tenue de classe, alors même qu'il y a des codes d'entrée, que c'est un peu dur de rentrer dans cette plateforme-là, et c'était fait exprès pour éviter que cette plateforme devienne un Facebook où chacun se promène, où les élèves se gossent de voir des jeunes profs en difficulté. Mais après, pour nous, c'est beaucoup plus... Alors, d'un point de vue stratégique, c'est vraiment un outil dédié aux débutants, et je viens d'insister suffisamment sur rentrer dans le monde réel des débutants. Et pour moi, c'est un outil de formation de formateurs, c'est un outil potentiellement, dans une boîte à outils plus large, de ressources pour l'accompagnement. Et j'aimerais avec vous partager un temps d'échange sur le potentiel pour vous de ce type d'outil. Alors, si vous ne me connaissez pas du tout, il faut que je vous en présente un peu. Le principe pour moi, c'est donc d'accélérer cette professionnalisation. C'est de déconstruire les doxas qui pèsent encore sur notre métier, sur l'autorité naturelle, sur le charisme naturel. Bien sûr, il y a des gens qui ont plus de charisme que d'autres, plus d'autorité naturelle que d'autres, mais c'est pas important. Si, c'est important. Mais malgré tout, quand on voit la professionnalité construite par ces enseignants dans ces établissements un peu difficiles, on s'aperçoit que chacun a composé avec soi-même et a construit vraiment un certain nombre de traits personnels, professionnels, liés à une connaissance de soi, mais liés aussi à une adaptation d'une posture professionnelle compte tenu des personnes que la personne a en face d'elle. Donc j'essaierai de vous montrer ça également. Alors, j'en ai déjà dit un peu, cet observatoire du travail réel s'appuie sur une didactique professionnelle. Elle ne met pas à l'écart les didactiques disciplinaires, mais elle considère que si on s'intéresse au premier pas professionnel, alors évidemment je suis un peu orienté sur l'éducation prioritaire, alors pourquoi ce choix, j'en dis un mot tout de suite, hein, parce qu'autrement il y aura une question sur le fait que de présenter à un niveau national une plateforme de formation qui a une tendance un peu cristallienne et qui risque de cristalliser un peu et de stigmatiser les éducations prioritaires et éventuellement d'éducationaliser, de considérer que finalement les problèmes de pratique professionnelle en France sont à la lumière de ce qui se passe dans les EP ou dans les RAR. C'est pas exactement ça. C'était pour moi un objet préférentiel d'étude. Puisque, vu que les conditions sont réellement un peu plus difficiles avec plus de classes hétérogènes, il me semblait beaucoup plus pertinent d'aller repérer le travail et le développement de jeunes débutants, plongés dans l'eau bouillante, obligés de s'en sortir et d'avoir des stratégies réactives de survie professionnelle. Et ça, c'est un choix de ma part, de travailler en EP2 ou en réseau en mission réussite, mais potentiellement... il y a dans tous les établissements de France des classes hétérogènes, des classes plus ou moins difficiles, et on a vraiment un certain nombre de conduits typiques, de dispositions à agir qu'on repère dans tous les établissements de France et non pas simplement dans la région parisienne. Souvent d'ailleurs on m'a dit oui mais ce que tu présentes de Créteil c'est rien du tout par rapport à ce que je vois à Clermont-Ferrand dans tel établissement. Des élèves sont même déçus de voir que c'est pas spectaculaire. Le but c'est pas ça, c'est pas de rendre les choses spectaculaires, mais c'est de montrer de l'activité professionnel en développement, en classe hétérogène. Alors, quand je parlais de didactique professionnelle et de didactique disciplinaire, je voudrais simplement insister sur deux points. Le premier, c'est que la didactique professionnelle s'intéresse à l'activité au sens générique. Je ne vais pas vous faire un cours sur les théories de l'activité ce matin, mais je m'intéresse à des comportements visibles, c'est-à-dire à la face extérieure et observable, mais également au vécu professionnel. Et je crois qu'ici, c'est une donnée importante, c'est de repérer que systématiquement, quand je parle d'activité, je parle des comportements et des phénomènes vécus, comme les deux faces d'une même pièce. On peut repérer, et pour les inspecteurs ou les gens qui observent en permanence des enseignants débutants, on peut repérer des comportements et se faire une idée, subodorer des phénomènes. mais souvent on passe à côté, même avec de l'expérience. Ça m'est arrivé en 97-98, lors d'un colloque, de faire la démonstration avec une salle pleine d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques, de formateurs, de gens spécialistes des enseignants débutants. Montrer une vidéo d'une jeune prof en difficulté dans sa classe, avec des hésitations, un certain nombre de conduites qu'on pouvait interpréter. Et on avait fait un tout petit TD qui était spectaculaire. On avait demandé à chacun d'inférer un peu les phénomènes vécus, qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle percevait dans la situation, comment elle vivait la situation. Et il y avait vraiment des interprétations complètement antinomiques, complètement orthogonales. Donc au sein même d'une communauté spécialiste, il n'y avait aucune possibilité de faire un consensus, que du dissensus par rapport à la façon d'expliciter les débutants. Alors bien sûr qu'après on peut repérer des régularités, mais je crois que le premier point, c'est de partir de ces phénomènes vécus, avant même de projeter ses propres fantasmes, ses propres analyses à l'aune de sa propre activité et de ses propres références. J'ai insisté sur le fait que ce travail, il a commencé il y a à peu près 5 ans avec Patrick Rayou, sociologue d'éducation à Paris, grâce à Dominique Gélin, directrice adjointe de l'IUFM de Créteil. Et ça a été une recherche systématique avec une cinquantaine d'enseignants débutants. Alors sur les 50, on n'a pas travaillé systématiquement avec chacun d'entre eux pendant 5 ans, mais c'est des gens qu'on suit encore. Je reçois des messages internet tous les deux jours. Il y a vraiment une sorte de veille par rapport à ces enseignants débutants qu'on suit, qu'on continue de suivre, même lorsqu'ils ont quitté l'académie de Créteil. Sur ce premier thème, grâce à cette recension, grâce à ces 200 ou 300 heures de vidéo, on a commencé à repérer et à catégoriser l'activité professionnelle. Et on a pu, par exemple, sur ce point noir qui est l'entrée en classe et la mise au travail des élèves. J'ai encore animé cette année un atelier de recherche-formation avec une quinzaine de néo-titulaires de l'Académie de Créteil. Lorsqu'on pose la question à des débutants, là je suis sur des enseignants débutants, néo-titulaires du second degré, sur deux établissements éducation prioritaire, EP2. Sevran-Beaudot, enfin bon, pas des établissements, donc Évariste Galois, pas des établissements très, très difficiles, des établissements assez ordinaires. Quel est pour vous le premier thème que vous voulez qu'on travaille? Tout de suite, immédiatement, pour 14 d'entre eux sur 15, l'entrée en classe et la mise au travail des élèves. C'est le premier thème qui apparaît brûlant pour eux, puisqu'il se répète 4, 5, 6 fois par jour, que dans certaines classes, c'est une véritable épreuve de force, avec des doutes identitaires très forts sur leur propre capacité à enseigner pendant plusieurs mois, parfois pendant une année complète, et certains s'en sortent simplement lorsqu'ils n'ont plus cette classe de 3e 4, qui a été pour eux une classe excessivement difficile pendant une année, et ils n'ont pas forcément tous trouvé des solutions immédiates. Donc, ce thème-là est important. Alors, quand je parlais de didactique professionnelle, c'est prendre le temps de façon transdisciplinaire d'étudier ce phénomène-là, de repérer les activités de chacun. Mais ça veut dire que je ne suis pas en train de mettre à l'écart les enjeux disciplinaires. Parce qu'au contraire, et ça, c'est peut-être la différence avec les propos de tenue de classe et de Sébastien Clerc, où il va poser un certain nombre de bonnes pratiques, mais qui sont des pratiques assez généralistes et assez invariantes, comme si on pouvait imaginer des gestes professionnels universels. Je crois qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus pondéré, mesuré. On s'aperçoit que d'une situation à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un moment à l'autre, ça peut complètement être remis en cause. Et en tout cas, notre plateforme montre bien ce relativisme des gestes qui ne sont pas du tout universaux, mais qui sont peut-être opportuns, qui sont peut-être pertinents, mais qui ne marchent pas à 100%. Et à partir de là, l'un des éléments qu'on a essayé de mettre aussi dans la plateforme, c'est de montrer que la consistance même des enjeux didactiques sont certainement les meilleurs vecteurs, les atouts les plus puissants pour ces jeunes enseignants, pour pouvoir tenir les classes. Et ça, c'est pour moi une inversion un peu forte, alors qui ne vous surprend pas, mais qui mérite d'être quand même reprécisée. Ça veut dire que je réinterroge les enjeux des didactiques disciplinaires à l'aune des enjeux de l'activité au sens plus générique. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est-à-dire que je pars sur l'activité de départ, situation professionnelle problématique, celles qui posent problème, celles qui sont les points noirs quotidiens, et je réinterroge a posteriori, en second plan, les enjeux didactiques, mais je ne les écarte pas. C'est-à-dire qu'on parle d'activité et après, on peut, et je pense que le formateur ou le tuteur aurait un rôle à jouer là-dessus, dire, OK, on part sur l'entrée en classe en ayant en tête peut-être des enjeux didactiques qui vont pouvoir être des moyens puissants et des vecteurs pour pouvoir tenir la classe dans ces moments-là, mais en ne les mettant pas d'emblée en amont, puisque face en tout cas aux débutants, parce que les débutants ont des problèmes de vécu professionnel liés à leur activité au sens holiste de l'activité. Donc là, je crois que c'est un moment important. C'est pas une stratégie démagogique de ma part, mais se dire on part d'eux, on part de leur vécu, et on peut remonter après à des enjeux didactiques. Et c'est vrai que là-dessus, je crois qu'il faut qu'on soit tous porteurs d'un message, enfin, sans être prescriptif de ma part. Les enseignants sont pas là pour exercer leur autorité. J'entendais... le témoignage d'Anne Jorot hier qui disait qu'une de ses jeunes profs disait « j'ai un problème d'autorité », mais que le principe, c'est bien d'arriver à faire autorité et non pas à exercer une autorité, puisque par rapport à ces élèves de 3e, un peu leaders de bande, les enseignants débutants n'ont aucune chance de pouvoir tenir le défi de ces face-à-face. Et ceux qui s'y osent perdent régulièrement, en tout cas, la face. Alors que s'ils sont là pour, avec beaucoup plus de peut-être de finesse, sans rentrer dedans de façon frontale, s'ils arrivent à amorcer un certain nombre de pistes avec des enjeux didactiques, en suscitant une curiosité et un intérêt, on voit des retournements de situation vraiment assez impressionnants. Donc les enjeux didactiques sont des éléments puissants par rapport à ces entrées en classe et cette mise au travail des élèves, mais il faut voir dans quelle mesure et comment ça peut se mettre en place. Ce sont des opportunités, non pas, en tout cas, ce sont des ressources. Alors, cette sélection, j'en ai un peu parlé, ce corpus vidéo nous a permis de repérer des étapes, des passages. Je vais le faire assez vite, parce que j'en ai déjà un peu parlé, mais on voit des débutants qui sont au départ des choses un peu prosaïques, de sens commun, que vous connaissez assez bien, qui sont à une époque, à un moment donné, complices des élèves, qui essaye de créer une sorte de complicité assez ambiguë, assez démagogique avec les élèves. Vous avez après des jeunes enseignants qui sont, après avoir été totalement complices et laxistes, deviennent sur-autoritaires, avec une sorte de retour en arrière forcené. Il y a ceux, au contraire, qui sont complètement rigides dans leur posture au départ. Et on voit des mouvements par rapport à cette relation aux élèves. On voit régulièrement, j'ai vu des cas d'une jeune prof complètement débordée pendant 3 mois, des vidéos que je ne montre pas, c'était une jeune prof de maths qui tout d'un coup devenait complètement rigide, complètement autoritariste et qui faisait peser une terreur incroyable dans sa classe, en construisant tout un canal de surveillance, etc. Enfin, c'était assez impressionnant. Mais c'était simplement une réaction après quelques mois de chahut. Et quand vous revoyez cette jeune enseignante quelques mois après, elle n'est plus la même encore. Elle a progressé, elle a trouvé d'autres pistes, elle a réussi enfin à reprendre un peu de rondeur et de bonhomie, alors même qu'à un moment donné, elle était complètement terroriste. Donc là-dessus, hein, on peut l'imputer aux personnes et aux psychologies. Soit on considère qu'il y a des phénomènes, il y a des étapes, et qu'on repère ça de façon plus générale. Et le travail systématique avec une cinquantaine d'étudiants, enfin d'enseignants, ça permet de repérer ces tendances, ces évolutions dans la façon de faire. Je repère plus les changements d'activité et l'ensemble des phénomènes qui accompagnent ces activités, c'est-à-dire les perceptions. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de découper comme ça et de repérer 5 catégories ou 6 catégories, mais c'est de comprendre les transformations même dans leur façon de percevoir le monde scolaire. Pour faire plus clair, lorsque vous avez un jeune prof, on va voir quelques images, parce que je sais que ça, comme avec les enseignants, vous avez envie de voir des vidéos et d'arrêter que je parle. On voit un jeune enseignant qui dit « je sais pas faire, j'attends parce que le silence est important pour pouvoir commencer ». Donc on comprend bien son monde mental qui ne l'autorise pas et qui crée finalement, alors on parlait tout à l'heure, hier j'ai entendu aussi ces mots-là, d'ouverture de possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va s'autoriser un certain nombre d'actions compte tenu de sa prison mentale. Enfin, si je reprends, c'est des choses un peu vieilles, comme André Jourdan, hein, qui avait insisté sur ces prisons conceptuelles, ou en tout cas ces matrices conceptuelles qui délimitent les possibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des enseignants qui résistent, parce que pour eux, entrer en classe, c'est obtenir le silence. Et après, lorsque j'aurai enfin suffisamment de silence, je vais pouvoir donner les consignes, sauf que ça peut durer des mois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis après, on voit des jeunes enseignants qui disent « bon, j'ai essayé ça pendant des mois, ça marche pas ». Alors il y en a qui ont une capacité à changer, à innover très rapidement, et d'autres qui sont au contraire très conservateurs. Parce que lorsqu'on est en difficulté devant une classe, on va pas s'amuser à bricoler, à inventer, à trouver des modalités dans tous les sens. Il y a une sorte de vraiment d'inertie et de conservatisme qui en tout cas assez caractéristique des débutants. Et après, certains vont s'autoriser d'autres formes. Alors peut-être que ça peut être du braconnage, ça peut être du colportage dans la salle des profs, mais c'est pas souvent suffisant. Et puis à un moment donné, un enseignant dit « moi j'ai arrêté de faire ça, je démarre très rapidement, pas un mot, je donne un petit travail tout de suite ». Et c'est le travail qui génère le contrôle de la classe et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'ici il y a une sorte d'inversion, mais qui est de façon triviale très facile à comprendre. C'est-à-dire que le travail devient l'antécédent et le contrôle la conséquence. Alors même que pour les débutants, souvent, le contrôle, c'est la priorité, c'est la préoccupation première, et ensuite, la mise au travail va être la conséquence de cette ambiance de classe propice au travail. Et c'est souvent maintenant de plus en plus le contraire, notamment avec des classes difficiles, où c'est le travail individualisé, assez rapidement, sans forcément avoir toutes ces modalités et ces rituels d'entrée très dogmatiques, qui va permettre en tout cas de commencer à créer une dynamique de travail et d'ambiance collective. Bon, et bien ça, au-delà des deux activités, un jeune prof ne pourra pas s'autoriser à franchir ce pas s'il n'y a pas une sorte de prise de conscience et de transformation de sa conception même de la façon d'enseigner. S'autoriser à ouvrir des possibles, c'est vraiment opérer un certain nombre de révolutions conceptuelles dans la façon de comprendre ce que c'est que commencer les cours. Et cette boîte à outils peut favoriser, en tout cas peut précipiter ces prises de conscience. Mais ce n'est pas parce que j'ai compris ou que j'ai perçu que les autres collègues font autrement que dès demain matin, je vais m'autoriser à le faire. On a suivi pendant assez longtemps, pour une thèse, les conseils pédagogiques. On voyait des jeunes profs qui étaient furieux contre eux-mêmes, tapant contre la table, en disant « mais bon sang, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est pas possible, etc. » Pris par l'action du lendemain, le conseil s'est estompé complètement, et 3 minutes après, en disant « ah, c'est vrai, j'avais cette possibilité », en revoyant la situation problématique se construire devant lui, et finalement mettre 2 ou 3 mois pour commencer enfin à s'autoriser à faire autrement. Alors, donc on a réussi à construire ces scénarios typiques d'entrée en classe, on en a repéré 4, 5, 6, j'en avais bien plus, mais après il a fallu, c'est compliqué d'arriver à, vraiment, d'arriver à simplifier, à modéliser, et à essayer de repérer 4-5 grandes tendances sans écorner complètement, sans simplifier, sans faire du simplisme et sans normer de façon caricaturale l'activité complexe d'un enseignant. Ça, c'est un vrai problème, un vrai souci. Hein. Je suis parvenu moyennement à le... il me semble qu'il faudra faire évoluer cette base et il faudra que ce travail-là, ce n'est pas un DVD figé dans le marbre, c'est pour moi un observatoire qui peut changer. Si on voit de nouvelles pratiques d'entrée en classe, si on voit des modèles qui émergent, on peut les interroger, on peut les mettre en avant et on peut en tout cas faire évoluer ceci. Alors, je termine sur cette partie un peu longue. On a rejoué des scènes. Alors, pourquoi ? On avait ces scénarios qui étaient inscrits. Et à un moment donné, lorsqu'on a enfin pris la décision de produire une plateforme de formation, au mois d'avril, pour vous dire les choses, je me suis aperçu qu'il y avait plein de vidéos que je ne pourrais jamais montrer. Parce que c'était des vidéos pour lesquelles je n'avais pas forcément les autorisations, non pas de filmage, non pas de présentation des matériaux en formation ou en recherche, mais pour pouvoir les mettre sur un site internet consultable par 25 000 personnes sur un mois, vous imaginez que ce n'est pas exactement la même chose et qu'il faut avoir des autorisations très sérieuses de la part des enseignants et des élèves. Donc à partir de là, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on refilme un certain nombre de séquences avec des patrons, avec des patterns, c'est-à-dire ces scénarios typiques que j'avais repérés. Donc on a réuni 5, 6, 7 profs débutants, une dizaine de chevronnés qui travaillaient avec moi depuis 5 ans, et c'était important d'avoir cette confiance et tout ce travail-là fait préalablement. Autrement, on n'aurait jamais pu tourner en 3 jours. On a repris la classe de 3e, qui était la classe qui avait posé tant de problèmes à Romain et Nora, qui étaient dans l'établissement depuis le début de l'année, et on a refilmé avec cette classe des scènes jouées en septembre-octobre, filmées en réel. Et puis après, parfois, on s'est aperçu que le rejouer était moins bon. En même temps, on a dû tourner une quinzaine ou une vingtaine de scénarios, on a mis simplement quelques-uns. Donc il y a plein d'autres matériaux qui pourraient être utilisables. Ça n'a pas été compliqué hein, pour les élèves de jouer une agitation, vous l'imaginez. Ce sont des professionnels de ça. Par contre, systématiquement, pour qu'il y ait quand même un petit peu de fidélité, j'ai dit, bon, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu dans la classe 5-6 fois depuis le début de l'année. Je vais vous faire voir des images qui correspondaient à votre entrée en classe avec Monsieur Hassan en début d'année. Pour eux, ça n'a pas été difficile de se revoir, de repérer un peu leur scénario. Donc, on a donné des rôles un peu à chacun et disant, non, vous faites comme vous aviez fait, mais sans surjouer. Alors c'était assez amusant parce que des fois ils allaient beaucoup trop haut dans la gamme, donc on ne savait pas, on recommence, on veut pas ça. Puis des fois ils étaient complètement calmes, apathiques. Ils ont dû faire, je sais pas, une quinzaine d'entrées filmées sur 3 jours, donc ça fait quand même 45 entrées. Et puis il y a une prof de maths là, qui est dans notre vidéo qui nous dit ah, finalement je crois qu'en début d'année je vais faire des entrées en classe pendant 1 heure. Et quand j'aurai fait comprendre ça, ça sera bon pour toute l'année. Et après, c'est pas inintéressant en plus. Donc, sur la plateforme, on a pas voulu... C'est un peu embêtant parce que rejouer, il y a une sorte de suspicion. Hein, c'est de l'actu-fiction. En tout cas, on voit cette... mais sur des scénarios écrits par la recherche, construits par la recherche, sur des vidéos typiques. Alors là-dessus, j'avais repéré mes meilleurs représentants, ce que j'appelle ici les meilleurs représentants de mon corpus de recherche. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai une vidéo qui sature... qui est la plus typique d'une conduite typique de débutant. Par exemple, l'attente systématique en début de cours. Je peux mettre une prof de maths, une prof d'anglais, mais j'en ai 15 qui sont vraiment substituables, puisque vraiment, c'est la même catégorie où on voit les mêmes réactions des jeunes profs, on voit exactement les mêmes expressions dans les autoconfrontations, c'est-à-dire dans les témoignages. Là, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire, j'attends, j'ai aucun moyen. Mais c'est schématique. C'est vraiment excessivement typique. Donc j'avais ces meilleurs matériaux et j'ai mis ça en avant pour qu'on puisse rejouer ces scènes-là. Alors simplement pour la plateforme, quand l'activité n'a pas été rejouée, a été rejouée, on a laissé l'activité telle qu'elle. Et quand ça a été une activité réelle, parce que des fois elles étaient non rejouables, comme celle de Séverine, eh bien on a simplement laissé... on a mis exactement quand est-ce que l'activité avait lieu et on a flouté les visages par rapport aux élèves. Alors je vais aller 2 secondes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là je suis obligé de me réinscrire parce qu'au bout d'un moment voilà, donc vous avez, c'est à peu près visible ou pas? Donc j'aurais plein de choses à vous dire, mais j'attendrai également vos questions. Je vous montre un tout petit peu l'architecture, et puis après je vais revenir sur chacune des rubriques. Donc vous avez une page de garde qui est simplement de présentation, c'est-à-dire que si on veut aller voir la recherche, ce que je suis en train de vous dire, il y a des éléments qui sont là, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose, on veut montrer comment on a travaillé ces catégories, comment on a repéré ces corpus ayant un même air de famille, comment certaines scènes ont été rejouées, tout est dit là et on ne veut pas tricher par rapport à ça. À partir de là, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés aux débutants pour pouvoir s'en servir, parce que la difficulté c'est que ça fait un peu usine à gaz et que si on ne comprend pas comment marche l'architecture générale, on peut être un peu perdu dans un premier temps, même si c'est super simple, si c'est pour moi super simple. On a ici systématiquement des onglets recherche. C'est un travail, la grammaire qui est proposée est structurée par la recherche, à partir de catégories. Donc on a un résumé de l'activité typique. Ici on est sur le haut de la frise. Je ne sais pas si c'est... vous voyez, ça va. On est en haut de la frise et il y a une sorte de progressivité des situations les moins maîtrisées sur un thème professionnel. On est en didactique professionnelle, l'entrée en classe, je ne reviens pas là-dessus, qu'on a appelé mise à l'épreuve, où l'identité du jeune enseignant est mise à l'épreuve, des fois de façon relativement longue. Ensuite, une deuxième catégorie qui est attente interminable, parce que c'est plus exactement de la mise à l'épreuve, mais il y a vraiment une étape de franchie. Le jeune prof au départ est chahuté, là, la jeune enseignante se fait respecter, etc. Mais bon, on est entre les murs, il y a énormément de négociations, etc. L'écrit contrôle, qui devient une sorte d'écrit sanction, qui est prescrit et qui n'est absolument pas pertinent d'un point de vue didactique, mais qui est pour cette jeune enseignante à un moment donné une réchappe possible. Alors ça, j'en vois en permanence. Hein, si je dis que je vois cette catégorie-là et que je pose cette catégorie-là, c'est que dans toutes les classes, je vois apparaître ça régulièrement. L'écrit apprentissage avec un jeune enseignant qui d'emblée donne un papier à la porte. On pourra vous faire voir quelques vidéos, mais c'est là pour l'instant c'est la présentation en général. Et là aussi, c'est des j'ai vraiment assisté à des situations assez étonnantes, de suivre une même classe toute une journée avec dans un LP très difficile de Paris, d'avoir des enseignants totalement chahutés avec des chaises qui volaient dans la pièce, et puis après un jeune enseignant qui derrière, sans aucune autorité apparente, sans aucun mot plus haut que l'autre, mettez les élèves au travail de façon inimaginable, spectaculaire. J'en avais les frissons au fond de la salle. Et une heure de travail avec bonheur, satisfaction, les mêmes élèves, quoi. Et une demi-heure après, les élèves repartaient dans un chahut incroyable. Donc là, je me suis dit, là, on parle de tenue de classe, hein, il y a vraiment quand même des clés qui existent et qu'il faut arriver à mettre en avant. Évidemment, il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc, le résumé présente les principales caractéristiques de l'activité et montre en quoi Rémi, Romain, Nora illustrent cette activité particulière. Vous avez ensuite ce qu'on appelait les composantes de l'activité, qui est une version assez édulcorée des composantes qu'on repère lorsqu'on fait de l'autoconfrontation. C'est une technique d'ergonomie, d'analyse du travail, où on essaye de comprendre quel est le vécu professionnel d'un opérateur dans une centrale nucléaire ou en train de faire n'importe quel métier au monde, où on arrive à comprendre ses perceptions, ses savoir-faire, ses raisonnements en situation. Et c'est tout à fait intéressant parce que pour moi, c'est la boîte à outils. On est vraiment dans les coulisses même de l'action, dans les logiques même de l'action, et on comprend plein d'éléments dans la façon dont les gens se structurent, pensent et agissent en situation. Et pour moi, c'est la partie la plus intéressante en termes de formation. Les vidéos, pour moi, ne sont pas importantes. C'est-à-dire les comportements d'élèves avec un cartable qui vole, ça n'a pas aucun, pour moi, aucun intérêt. Mais c'est de comprendre les mondes des débutants. Et si on passe à chaque fois, donc vous avez toujours la vidéo, mais le vécu professionnel, on appelait ça pas autoconfrontation parce que c'était pas assez clair, vécu professionnel, on a 7-8 minutes, c'est un peu long, c'est fait exprès, où on rentre dans le monde du débutant, et il y a plein d'éléments typiques, peut-être singuliers, parce que ce jeune agrégé externe qui a fait son stage à Henri IV, c'est un peu particulier, et qui a envoyé ensuite en ZEP, mais malgré tout, ça augure certainement des nouveaux masterisés, qui ont un très haut niveau d'excellence dans leur discipline et qui n'auront aucune formation professionnelle. Donc là, il y a un type quand même qui apparaît au-delà de la trajectoire même un peu idiosyncrasique. Donc, les composants de l'activité, c'est les indices dans la classe, ses préoccupations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on regarde ces activités, au fur et à mesure, les préoccupations évoluent. Et comprendre comment des jeunes enseignants agissent autrement en classe, c'est comprendre comment ce monde perceptif et décisionnel bouge, évolue. Et c'est là qu'on est vraiment dans les racines mêmes de l'activité et dans les racines mêmes de cette dynamique de transformation de l'activité. Et toutes les connaissances qu'ils mobilisent. Alors les connaissances, ce sont des croyances personnelles. Alors je lis là, pour vous donner un exemple, les jeunes qui entrent dans la classe sont des élèves prêts à se mettre au travail. Enfin, en tout cas, c'est lui dit, il faut que j'arrive à responsabiliser ces élèves. S'ils ne le font pas spontanément, un appel à leur responsabilité suffit à les y mettre. Enfin, et on voit un certain nombre de croyances qui sont les siennes, de convictions, alors construites par rapport à sa propre scolarité, dans des classes plutôt calmes, par rapport au monde universitaire qu'il vient de traverser et de côtoyer, et on voit qu'on est sur des convictions ou des connaissances qui ne sont pas du tout adéquates par rapport à ce genre de public. Et ce qui est intéressant, c'est dans ces coulisses de l'action de repérer ces transformations. Et après, je dirais que les transformations d'activité ou de comportement sont les parties visibles de cette transformation plus profonde. Et si on n'est pas là sur cette transformation des phénomènes, on passe à côté, ou on fait simplement qu'énoncer un certain nombre de règles qui n'auront aucun effet sur les personnes. Après, il y a des niveaux d'analyse qui sont assez courts. Hein. En général, on a fait des textes assez simples et assez courts, et un glossaire avec des mots comme activité, activité typique, composante, pour que les gens, si à un moment donné on dit que ça vient de la recherche, puissent avoir un minimum de clés, en sachant que peut-être que certaines personnes n'iront voir ça, mais en tout cas, ça nous semblait normal de pouvoir montrer. Alors, des activités... avec systématiquement, alors une activité, alors je peux vous en montrer 15 secondes hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Les images ne sont peut-être pas excellentes sur un vidéoprojecteur, c'est meilleur sur mon ici. Mais surtout, c'est fait pour être utilisé en ligne. Je vais mettre le son. C'est pour être utilisé en ligne avec des débits faibles, 512 kilooctets. Donc on a quand même largement diminué la définition des images. Ça pour moi, c'est à la virgule près l'activité filmée en début d'année. Hein. Qu'on soit clair, c'est pas du tout surjoué, c'est une activité totalement ordinaire. Ça pose un vrai problème. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arriver à montrer ça? Ce que j'ai pas du tout apprécié en voyant les images sur France 2 en plein écran à 20h sur le journal télévisé de mardi dernier. Parce que les jeunes avaient tout. Bon, ils ont pas été prévenus, même si ils connaissent. On a toutes les autorisations pour ça. Sauf que les journalistes sont allés beaucoup trop vite, ils ont eu accès au code et ils ne nous ont pas redemandé l'autorisation. Vous voyez la responsabilité et ce qui repose sur les épaules de ces jeunes enseignants qui ont, comme ils le disent eux-mêmes, prêté leur corps à la science pour en faire des cas typiques, parce que pour eux ils sont convaincus du travail, mais il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Surtout qu'on a quand même passé une année à réfléchir à des codes et tout d'un coup tout a sauté. Bon. Ceci pour vous dire que à quoi ça sert ce travail-là, c'est que dans mon esprit, et j'espère que ça c'est compréhensible, pour comprendre cette dynamique de transformation, il ne faut pas simplement montrer les bonnes pratiques, mais il faut comprendre comment l'activité se développe des pratiques les moins maîtrisées, en édulcorant les difficultés, et en essayant de voir cette dynamique de transformation. Et comprendre une. Alors, c'est du conseil pédagogique là, hein, que je suis en train de faire, c'est qu'à un moment donné, si on veut comprendre l'activité à un instant T, il est important de comprendre en amont et en aval les activités qui peuvent être à l'aune de l'activité étudiée ou en aval pour bien comprendre cette dynamique de transformation. C'est pas une dynamique linéaire, c'est pas, il n'y a pas de développement inéluctable, qu'on soit clair, hein, parce que ça peut être les limites ou la caricature de ce travail-là. Il n'y a pas des passages, parce qu'un jour j'ai un étudiant dans l'amphi qui me dit, même Surya, donc il va falloir que je passe par toutes ces étapes. Le but, c'est bien de précipiter les choses et d'éviter ça. On peut imaginer même qu'il y a de l'apprentissage fictionnel pour éviter, anticiper et éviter de vivre longuement et douloureusement ces étapes-là. Mais tout enseignant chevronné me dit régulièrement, mais ça, je le vis tous les jours, hein, ou presque. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des profs un peu chevronnés ou très chevronnés qui vivent un moment de chahut relatif, ponctuel, à un moment donné, et il revient ensuite. Il reconstruit des repères, il blinde sa classe, comme il dirait, pour pouvoir reprendre une certaine stabilité, une certaine pérennité dans le travail. Donc, mais pour moi, montrer ces activités-là, c'est comprendre cette dynamique de transformation. Et il faut arriver à partir de là pour comprendre la suite. La difficulté de montrer une bonne pratique, comme dans tenue de classe, et de décrire une bonne pratique d'un point de vue un peu statique, ça donne pas beaucoup d'éléments pour des débutants pour comprendre cette dynamique de transformation. Donc là, vous voyez qu'on peut être assez inspiré de Vygotsky et de ses proches développements. Le but, c'est pas d'opposer les débutants aux chevronnés, mais c'est de repérer ces étapes intermédiaires qui vont pouvoir favoriser et autoriser ces possibles développements. Et là où les enseignants débutants sont vraiment très friands, c'est de voir des débutants, des pères qui ont le même âge qu'eux, mais qui sont meilleurs qu'eux. Non pas dans un souci de culpabilisation excessive, c'est simplement de dire ils sont capables de le faire, et ça devrait m'autoriser un certain nombre d'autres façons de faire en classe. Et alors, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce travail-là, c'est que quand on voit Romain, alors on l'écoute quelques instants quand même pour vous montrer un peu le travail. Bon, j'arrête, hein, ça dure 7-8 minutes. Vous voyez avec quelle authenticité, sincérité, ce jeune enseignant parle. Et vous imaginez quand même la réassurance quand d'autres en difficulté, n'osant pas dire les choses, j'en connais plein, hein, mais vous en connaissez plein également, qui sont dans ces premiers pas assez approximatifs et se retrouvent chez ce jeune prof. Et ce qui est beaucoup plus intéressant que ça, parce qu'après, bon, c'est de repérer que dans les minutes suivantes, il va commencer à repérer comment lui voit des pistes de transformation en réinterrogeant sa propre pratique. Dans ce travail-là, je suis pas évaluateur, hein, je pense que vous l'avez repéré. J'essaie d'être assez descriptif. Souvent, je redécris des actions dans la classe. Je peux faire de la récalcitrance, mais c'est pas le but ici. C'est vraiment de l'accompagner et de mettre en mots son expérience. c'est de mettre des mots sur son vécu professionnel. Et il le fait avec beaucoup d'humilité et, je trouve, de sincérité. Ça m'est arrivé souvent d'avoir dans les entretiens d'autoconfrontation des jeunes enseignants qui tremblent et qui revivent complètement la situation qui est la leur. Je n'ai aucun rôle ici d'évaluation et c'est bien, en tout cas, quelque chose qui est important pour arriver à créer cette posture compréhensive. Ce qui pose un vrai problème par rapport au conseil pédagogique, puisque les prochains tuteurs pourront être complices, et on peut imaginer qu'ils aillent assez loin dans cet accompagnement, mais à un moment donné, ils sont également évaluateurs. Alors, ce qui est une tendance préférentielle des débutants lorsqu'ils vont sur cette vidéo, c'est cette vidéo en complément qu'on a replacée là, alors qu'au départ, on ne l'avait pas mis là, mais on a fait exprès de la modifier il y a une dizaine de jours. C'est-à-dire que quand on lit le résumé de l'activité, l'activité typique numéro 1, mise à l'épreuve, caractériser les enseignants en difficulté en début de cours, leur identité professionnelle est mise à l'épreuve, cette activité typique n'est souvent qu'un passage provisoire. C'est le cas pour Romain, à la fois exigeant vis-à-vis de sa discipline scolaire et soucieux de progresser, qui est parvenu en cours d'année à adopter d'autres formes d'entrée en classe et de mise au travail des élèves, voire vidéo ci-dessous, Romain 3 mois plus tard. Et on clique là. Et on peut directement voir, c'est également une activité réelle, comment ce jeune enseignant, assez rapidement, met les élèves au travail, les élèves rentrent, tout petit texte distribué à l'entrée de la porte, il lance le vidéoprojecteur, il commence son activité, les élèves ont un texte à remplir et ça s'enchaîne très vite, il n'y a aucun chahut et c'est assez spectaculaire. Après, on peut réinterroger la pertinence du travail, mais quand on a été à ce point mis à l'épreuve en début d'année, il me semble que c'est une activité qui est légitime à un moment donné de son étape de développement. Ce qui est après intéressant, ce sont cette boîte à outils là. Il y a une deuxième boîte qui n'était pas complètement prévue, mais qui s'est organisée notamment avec Patrick Picard, où on a demandé aux débutants de se concentrer sur mes scénarios typiques qu'on avait décrits et qu'on avait présentés, et de témoigner éventuellement du caractère partageable ou non partageable de ce scénario-là. Alors on a une prof de PS par exemple, enfin très rapidement, hein, qui s'exprime sur l'activité numéro 1. Bon, donc elle va pendant 2-3 minutes décrire ça, montrer comment elle fait autrement et comment elle a pu dépasser ça. Donc systématiquement, c'est une boîte à outils de témoignage entre pairs, où on a par exemple Rémi qui dit « Moi ça j'ai essayé, ça marche avec des aides de 6e ». Il résume très bien ce que j'ai pu observer, ce qu'il a pu vivre lui-même. À partir de là, donc, vous avez toujours cette batterie donc, de témoignages qui controverse et qui montre qu'il n'y a pas de position figée, il n'y a pas de gestes universaux, mais que vraiment, ce sont des activités qui ont été partagées, vécues et qui ont souvent été dépassées. Et après, nous avons des expérimentés qui ont un autre recul. Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux catégories d'expérimentés. Sur Créteil, donc, j'ai travaillé longtemps avec eux, on avait des expérimentés qui avaient 28, 30 ans, donc une petite trentaine, 7, 8 ans d'expérience, et qui avaient plein de choses à dire avec beaucoup, beaucoup, et des professionnels ou des chevronnés vraiment très efficaces dans leur classe, repérés par l'inspection, repérés par les formateurs, repérés par les. Et avec des élèves qui travaillaient remarquablement avec eux. D'ailleurs, au bout de la frise hiérarchique, une des activités qui est montrée comme activité maîtrisée, c'est une prof de lettres qui a une trentaine d'années et qui vraiment force le respect dans sa façon de faire et dans sa façon d'avoir construit une professionnalité très respectueuse, très bienveillante à l'égard des élèves de difficiles et qui, en tout cas, réussit, qui est vraiment un modèle pour nous. Et je crois qu'il faut montrer quand même un certain nombre de modèles. Même si c'est plus dur pour ces personnes-là de s'exposer comme modèle, vous l'imaginez. Et après, on a des personnes donc des personnes plus anciennes qui expliquent. Alors, je prends un autre exemple avec Jacinthe.
Une autre conviction que j'ai vue là dans l'ensemble, c'est que le calme, il arrive quand on n'est plus uniquement dans le cadrage, mais qu'on est en train de poser son objet, quand on commence à faire des maths, quand on commence à parler allemand, dès qu'il prononce ses phrases en allemand, tac, instinctivement, même s'il y en a qui n'ont pas très envie de s'y mettre, ben oui, on est là pour ça. Il faut très vite que ce moment où on va attendre que les élèves soient calmes pour commencer à travailler, ben, il faut qu'il soit le plus court possible, quoi. Parce que ce sont des tunnels pour moi. À partir du moment où on est dans, je suis dans le prélude où il faut que vous soyez sages pour commencer à travailler, c'est quelque chose qui risque de s'éterniser, qui peut devenir énorme, qui peut devenir envahissant. Je vois des fois des collègues qui sont à l'exercice avec leur rang dans le couloir en attendant indéfiniment qu'il n'y ait plus de bruit, celui qui a envie que ça continue, qui va continuer à faire le zèbre derrière pendant qu'il y a d'autres qui ont envie de ça avance. C'est une espèce de ralenti d'étirement où on n'est pas encore dans l'objet, où on est en train de se dire, de se prouver à soi-même, pour prouver à la classe, qu'on est capable d'obtenir la maîtrise du silence. Ça, sont des moments qui sont pour moi périlleux et inutiles. Que plus rapidement on sera à l'intérieur de ce qu'on doit faire ensemble, c'est-à-dire du latin, des maths, de l'allemand, de l'EPS, plus vite on sortira de ce moment tendu où on est dans l'anxiété de notre non-maîtrise.
Bon, je vais arrêter bientôt. Donc vous avez ici, je termine cette présentation rapide, le témoignage des néo-titulaires, des chevronnés. Alors, en sachant que là, ce sont des enregistrements pris sur le vif, assez spontanés, pas retravaillés derrière. Hein. Ça s'est fait en deux matinées, hein, ces enregistrements-là. Et puis après, un certain nombre de points de vue de chercheurs qui sont... alors, j'ai un certain nombre de points, de tout petits morceaux d'une minute ou deux qui ont été sélectionnés de la conférence que je fais régulièrement au PLC2 de Créteil, où ils sont 550 dans la salle... avec leurs inspecteurs, Patrick Rayou, Frédéric Soja, Christine Félix. Et là, on pourrait compléter parce que ces matériaux-là sont encore assez insatisfaisants. Et ça, ça nous pose des vraies questions de recherche. Lorsque nous avons le regard et la pertinence même et l'acuité des professeurs chevronnés qui réinterrogent l'activité, comme on vient de le voir avec Jacinthe, quelle est la valeur ajoutée de la recherche par rapport à ça? Alors évidemment, la valeur ajoutée, c'est la structuration générale de la base de cette plateforme. Mais après, les points de vue... des chercheurs doivent être décalés par rapport au professeur chevronné, et il faut que chacun trouve sa place. Enfin, il y a des questions assez intéressantes. Je termine sur... bon, alors après, c'est bien beau de voir des débuts un peu chahutés, etc. On a des profs comme Lucie, qui, ayant fait une première année en ZEP, en stage, a construit déjà plein d'éléments. Et là, c'est un régal, d'abord, de voir comment cette jeune enseignante de maths, ne connaissant pas la classe, elle, c'était la seule à pas la connaître, a dit, bon, écoutez, avec moi, ça va être simple, parce que je lui demandais de reproduire son activité réelle. Avec moi, il y a trois règles. Elle annonce ça aux élèves avant même, hein, dans le moment de briefing avant le tournage. Les élèves ont compris assez rapidement ces trois règles, et elle a fait une entrée en classe qui était à 2 mm exactement, son entrée en classe. Et on pourrait faire ça, hein, je pourrais vous montrer une vidéo réelle avec cette élève, avec cette prof avec des quatrièmes ou des troisièmes. C'est exactement au millimètre près, la même façon, le même sas. Elle envoie quatre élèves au tableau, ils commencent à corriger. Et là, alors que c'était un tournage, elle a commencé à faire des maths. Au bout de 3 minutes, elle était en train de... Et les élèves jouaient le jeu, ils faisaient des maths. On était assez abasourdi. Ce qui est assez intéressant, donc, c'est d'écouter ces 7-8 minutes où elle identifie clairement ses règles. Pour moi, les cartables, il faut qu'ils soient à tel endroit, je suis un peu maniaque, etc. Je me suis aperçu très rapidement que mes cordes vocales étaient en train d'exploser en début d'année. Et il fallait que je me protège. Et la seule façon que j'ai eue de me protéger, c'est de baisser le ton et de mettre en place plein de configurations d'entrée en classe englobantes, permettant à chacun de trouver sa place assez rapidement, et plutôt que d'avoir ce moment de défi face à face anxiogène avec des élèves qui font les zèbres, elle a organisé de façon très très claire des éléments assez fonctionnels et assez efficaces. Là, pour moi, c'est vraiment une mine d'or, et quand je fais de la formation continue ou initiale avec des professeurs débutants ou chevronnés, c'est vraiment un régal de voir comment une jeune enseignante débutante est déjà expert, hein, PAIR, vraiment dans sa pratique. Donc je crois que là, l'expertise n'attend pas, et on voit des choses très intéressantes. Et c'est super intéressant d'aller voir en EPS, par exemple, comment une prof de PS construit ses débuts de cours dans une configuration très différente, mais avec beaucoup de proximité par rapport à la prof de maths. Bon, on va pas rentrer. Donc là, il y a 7-8 minutes également dans une autre matière et qui montre vraiment des choses très proches. Et c'est très intéressant de voir comment elle fait le tissage ou le maillage de l'activité précédente. Elle revient sur le contrôle des connaissances pendant l'appel. Elle se sert. Et là, par contre, on a inséré des morceaux d'activité réelle. Là.
Et en général, les élèves, on voit, ils lèvent un peu tous la main, ils aiment prendre la parole et faire dire qu'ils existent aussi dans le groupe et qu'ils vont montrer.
Elle se rabaisse au niveau du groupe, elle crée une convivialité. Enfin, il y a des choses assez remarquables dans son activité. J'en reste là, je ne veux pas vous vendre cette plateforme. Je vais simplement conclure pour respecter ce que je vois Michel Bois qui me regarde. Alors tout ça, j'aurais pu le dire, mais je ne le dirai pas comme ça. Oui, je vais simplement faire une conclusion provisoire, hein, sur... Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est deux ou trois choses. On propose un outil de vidéo-formation. Et c'est les questions que je voudrais vous poser par rapport au TD qui va venir juste après. Hein. Il va y avoir un temps d'échange et vous allez être répartis dans quatre salles, c'est ça, Michel ? Trois salles ?
Trois salles.
D'accord. Bon. Quel est le potentiel ? Ce sont des choses un peu nouvelles, hein, parce que, alors, évidemment, vous l'avez compris, que ce travail arrive à terme, et c'est un peu un hasard du calendrier de voir qu'il arrive à terme maintenant, alors même qu'on a supprimé la formation professionnelle. Pour moi, ça ne remplace pas, et je passe mon temps à le dire, en boucle, ça ne remplace pas la formation en présentiel. C'est pas parce qu'on met à disposition 4-5 heures de vidéo sur un thème, même si c'est un peu organisé et un peu pertinent, ça peut servir. Comment ça va servir, je sais pas bien encore. Hein. Là-dessus, on est tout à fait humble très soucieux de voir l'évolution de ce travail. Quel est le réel potentiel de formation de Neopass ? Est-ce qu'on peut imaginer de nouveaux scénarios de formation ? J'ai quand même quelques idées, hein, je les développe pas là, mais c'est de considérer que si... moi, j'étais pas très favorable, hein, et peut-être que des collègues vont pas apprécier ça, d'avoir des analyses de pratique complètement décalées par rapport aux établissements. Des fois, en plus, avec des formateurs qui n'étaient pas suffisamment en prise directe avec la réalité du métier, et on avait des choses qui étaient assez générales. On avait parfois des discours génériques et qui... parfois ennuyer un peu les professeurs stagiaires qui avaient d'autres chats à fouetter, et notamment des préparations à faire pour le lendemain matin. J'ai passé un an avec donc ces jeunes profs, et c'est à l'occasion de ce travail-là qu'on a filmé ces séquences-là, à faire d'analyse de pratique au fil de l'eau. Donc on a mis un dispositif de pratique, on a filmé en classe, ces jeunes enseignants ont sélectionné, donc le thème il était convenu au départ, c'est eux qui l'ont décidé, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ils sélectionnaient des... Alors, sur les 15, 7, 8, 9, 7, la moitié, se sont portés volontaires tout de suite pour être filmés dans la classe, avec beaucoup de transparence et d'humilité, en disant, moi, écoute, je suis chahuté, tu peux venir me voir. C'est souvent ce qu'on me dit, comme s'il était plus facile de montrer ses débuts et ses difficultés que des profs qui, quelques années après, n'ont plus forcément cette mansuétude, qui, normalement, auraient dû trouver des solutions et ne sont pas forcément... parvenu à trouver ces solutions-là. Donc on partait de ces personnes-là, ils faisaient donc, on les filmait en classe, dans les classes les plus dures s'ils le souhaitaient, ou pas du tout. D'autres m'ont dit, non, moi je reste par procuration. Je veux bien voir, je veux bien confier mon expérience, mais je ne veux pas être filmé en classe. C'était la moitié des 15. Et puis ensuite, dans l'année, il y en a au moins 4 ou 5 qui ont voulu être filmés. Donc en gros, on a eu 3 ou 4 résistants sur 15. Et il faut respecter ça. Hein. Pour moi, c'est absolument pas possible d'aller filmer tout le monde. C'est de l'intrusion assez violente si les gens sont pas prêts à ça. J'aime pas me voir en vidéo. Enfin, c'est fait par tout le monde, en tout cas, a des résistances par rapport à sa propre image. À partir de là, ces jeunes ont sélectionné des corpus vidéo, les ont présentés aux autres profs. Vous imaginez, Romain, présenter à tout le monde ses difficultés, de voir comment les collègues, comment il a mis des mots sur sa pratique, comment il a externalisé, comment il a pris ses responsabilités, et comment ça a précipité son propre développement. C'est-à-dire assumer cette position, repérer les autres, voir Nora, la prof d'anglais, avec les mêmes élèves, faire autrement. J'ai la vidéo. Vous voyez, Romain, il est comme ça pendant... écarquillé pendant toute la durée de la projection de Nora avec ses élèves. L'intérêt, c'est que là, il n'est pas exposé par rapport aux élèves, il n'est pas dans la classe en co-observation, il est par procuration, et il tape sur la table, il prend des notes, et on voit que ça génère plein de choses chez lui, et que derrière, il a repéré le vouvoiement, le tutoiement, la distance, la neutralité, enfin, il a repéré tous les vecteurs et toutes les antinomies de son activité par rapport à celle de Nora, et ça a vraiment favorisé ce développement-là. Donc là, c'est une sphère de débutants, une communauté débutante qui prend au sérieux, avec un formateur qui prend au sérieux ces questions même d'analyse de l'activité, qui n'écarte pas les disciplines et qui revient des fois. Et en plus, j'ai été aidé d'une formatrice experte, didacticienne quand même plus que moi au sens des disciplines. Et donc, c'est vraiment un dispositif au fil de l'eau qui se répétait pas suffisamment souvent parce que je ne suis pas suffisamment disponible. Mais tous les deux ou trois mois, on faisait un point comme ça et on avançait ensemble. Ils ont adoré ça. Ils ont trouvé que c'était la prof de maths, elle faisait tout pour venir, elle faisait déplacer toutes ses heures. Enfin, on a eu des conduites vraiment assez impressionnantes, de, alors même qu'ils étaient en urgence, qu'ils étaient fatigués. Enfin bon, vous l'imaginez un peu. Et après, on a élargi cette formation à l'ensemble des professeurs. C'est-à-dire que c'était la demande de la principale qui m'a dit à un moment donné, on part des débutants et j'aimerais maintenant que ça puisse éventuellement essaimer et concerner d'autres enseignants. Donc sur la base du volontariat, toutes les personnes enseignantes de l'établissement et même les personnels autres qu'enseignantes ont pu participer à une formation, au témoignage des débutants. Et là, ça a généré le début d'une culture commune avec des préoccupations, avec des consensus et dissensus dans la façon de faire. Il me semble que là, ça augure de ce qu'on pourra faire dans les établissements. Attention, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande quelqu'un qui peut suivre et faire le travail de chercheur. Il faut que ça soit un formateur qui fasse ce travail-là. Donc on peut imaginer qu'il y ait des corpus locaux qui s'organisent, des corpus vidéo avec des jeunes profs qui accepteraient de faire ce travail-là. Mais ce type de travail de plateforme nationale, ça me paraît un élément complémentaire. On peut avoir des corpus locaux dans un bassin d'établissement ou dans un établissement, avec un chef d'établissement plus ou moins enclin à faire de la formation. Et là, je pense qu'il y a tout à construire et qu'on ne va pas pouvoir comme ça décréter la formation dans l'établissement et avoir une homogénéité au niveau national de la formation. Et ce type de matériaux-là, pour moi, ce sont ça peut être considéré comme des référentiels ou des repères nationaux qu'on pourrait rediscuter dans les établissements. Donc, faire une sorte de maillage hybride de formation entre le à distance, mais également le présentiel avec ces dispositifs embarqués au fil de l'eau. Nouvelles alternances, hein, je crois qu'il faut y réfléchir. Nouveau partenariat pour la formation. Je termine, c'est vraiment mon dernier mot, Michel, sur le fait que pour moi, ce n'est pas une ressource morte, hein, c'est une ressource qui démarre. Quel est son chemin et son destin, je l'ignore complètement, mais ça serait quand même dès l'année prochaine, et on a déjà un certain nombre de rectorats partenaires, Marseille, Bordeaux, Clermont et d'autres, qui sont partenaires pour pouvoir prolonger, développer un certain nombre d'autres thèmes. On va avoir des thèmes sur le premier degré. Il y a une forte demande sur le premier degré. Par exemple, la question du cours dialogué. Mais c'est un thème pas seulement du premier degré. Comment un jeune débutant, quelles sont les maladresses, difficultés récurrentes d'un jeune débutant sur le cours dialogué? Et comment progressivement on peut imaginer des façons de faire avec éventuellement des professeurs chevronnés et des bonnes pratiques, hein. Je crois que là aussi, j'ai pas peur d'utiliser ces mots-là, quoi, parce qu'on peut aussi donner un certain nombre et repérer ces racines de l'action lorsqu'un cours se marche de façon. Et puis il faudra aller interroger les élèves aussi, hein. C'est quelque chose qui peut manquer, hein, qu'il faudra absolument mettre en place. On veut faire également un thème sur l'aide aux élèves. On est actuellement, et on n'est pas spécialiste forcément de tous ces thèmes, hein, c'est-à-dire que là, l'aide aux élèves, c'est Frédéric Soja, Christine Félix qui vont travailler dessus. La gestion des conflits, donc j'ai vu donc Éric de Barbieux sur ce thème-là. Ça va être Cécile Carra de Lille qui va prendre ce thème, travailler avec le cahier des charges de Néopass. C'est-à-dire que pour nous, si j'avais à le résumer, le cahier des charges, c'est on part d'activité des débutants, on part d'une situation professionnelle, on décrit des comportements et on met en regard des vécus professionnels. On essaye de comprendre cette progressivité dans le développement. Et on met ces témoignages de pairs, de plus chevronnés et le regard des chercheurs, pour qu'on ait une sorte de boîte à outils assez dialogique pour montrer les tensions du métier, le réel du métier, et sans simplifier à l'extrême le métier en montrant simplement de bonnes pratiques qui n'ont aucune chance de prendre en termes de greffe si on en reste là. Voilà, pour cette présentation un peu décousue, j'espère que vous me pardonnerez de ça. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, mais surtout à vous lancer sur un TD dans les minutes qui viennent.